Libre cours, Robert Doisneau, le réfractaire du temps qui passe. Seconde émission.
En fait, je pense que on parle toujours de Robert Doisneau, photographe, mais Robert a une autre activité, c'est l'écriture.
L'écriture est le talent caché de Robert Doisneau, son secret le mieux gardé. Comme la photographie, elle est pourtant au centre de sa vie. Peut-être même qu'il rédige dans sa tête le texte qui accompagne l'image au moment où il appuie sur le bouton. Il n'y a aucune frontière entre les deux. Il part en reportage avec un carnet sur lequel il note ses impressions, les petites histoires, les légendes de ses images. De la même manière qu'il prend des photos sans en avoir l'air, en simplifiant l'acte au maximum, lui ôtant le côté cérémoniel qui lui aurait semblé pompeux et prétentieux, il écrit ses textes et ses légendes un peu partout, entre deux prises de vue. Il porte trop d'admiration aux écrivains pour se considérer comme l'un des leurs. Au début des années 80, un éditeur lui propose d'écrire un livre sans une image, ce qui va devenir à l'imparfait de l'objectif. Ne sachant comment rédiger ce qu'il redoute appeler ses mémoires, l'éditeur lui propose une forme épistolaire et chaque dimanche de l'année 1983, Robert écrit un chapitre de ce livre sous forme de lettres envoyées à ce monsieur. Il y raconte des souvenirs, esquisse des portraits, évoque des situations, explique sa façon de travailler et sa passion de la littérature. Ce livre est traduit en anglais, mais aussi en japonais, par l'écrivain Toshiyuki Horie. Ce dernier parle d'un trésor au sujet de ce livre, d'une langue française si subtile qu'il lui a fallu près de 3 ans pour achever ce travail. Il faut dire que Robert Doisneau a toujours énormément lu. Sa première rencontre est marquée par un auteur qu'il n'a jamais photographié, Jean Giono, mais dont les livres ont déterminé une partie de l'artiste qu'il est devenu. On connaît surtout les images de Paris, de la banlieue, sans savoir que Robert Doisneau part souvent sur les routes de campagne et a même suivi une transhumance. En 1958, après avoir rencontré un berger un été, il décide de le suivre et l'accompagne entre l'orgue et les hauteurs de Valberg au printemps suivant. Cette histoire, il la raconte à Prévert, qui immédiatement après écrit ce texte.
Un jour, dans les petites montagnes des Alpes-Maritimes, du côté d'Entrevaux, je crois, Robert Doisneau, en reportage, accompagnait un berger, ses moutons et ses chiens lorsqu'un camion éventra le troupeau et tua aussi les 2 chiens. « Tu as pris des photos ?»« Non, j'ai consolé le berger, » répondit Doisneau. Et c'était comme si la vie en instantané avait fait le portrait de Doisneau. Simple échange de bons procédés. Depuis déjà longtemps, Robert Doisneau fait de si belles, simplement étonnantes images et toujours à l'occasion des noces et banquets de l'amour et de l'humour de la vie.
À son retour, il fait une pré-maquette d'un livre avec des textes qu'il a écrits sur cette aventure. Quand Actes Sud le publie en 1999, les journalistes parlent d'un carnet inédit, comme d'un trésor que le photographe aurait caché à ses contemporains. L'histoire est tout autre. Personne n'en a voulu de ce livre. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'Actes Sud le publie. Robert était mort depuis 5 ans déjà. Mais son premier livre, c'est avec Blaise Sandrard qui le publie. Grâce à Pierre Betz, qui dirige le magazine Le Point, Robert part à Aix-en-Provence photographier l'artiste.
Je me trouvais le jour de l'enterrement à Saint-Thomas-d'Aquin avec Raymond et mon ami Fernand Léger. La famille était là, ou plutôt des dames habillées de noir qui représentaient la famille. Il y avait avant tout cette pauvre Jacqueline Apollinaire qui tenait tout juste debout, qui avait une grippe épouvantable, et qu'une chère amie à moi, Madame Eugenia Ruissi, de Rasuris de Santiago du Chili, accompagnait pour la ramener en auto et habillée de noir, comme on l'est dans des pays d'Amérique du Sud. Je me suis penché sur les 2 tombes et dans l'une, à moitié bourré de mottes de gazon, il y avait une motte congelée qui avait exactement la forme d'Apollinaire. Et c'est ce qui m'a fait dire, Apollinaire, mes enfants, Apollinaire n'est pas mort.
La présence de Sandrard par sa voix, là. Oh, cette voix lente et doctorale en même temps, hein. Il ne faut pas dire le contraire, hein. Attention. Ouais. Ça, c'est bien lui, ça. J'ai été le voir à Aix-en-Provence, j'ai attendu 3 jours, et puis je l'ai trouvé en train de se faire raser chez un coiffeur, où moi je me faisais couper les cheveux, ne sachant plus quoi faire de moi. Et puis quand l'homme à la serviette blanche s'est levé, il n'avait qu'un bras, c'était lui. Alors j'étais faire des photos de lui dans le vieux Aix, c'était bien. Puis après on était chez lui aussi, où il travaillait face à un mur, avec un papier devant l'ampoule nue, pour ne pas se blesser les yeux. C'est là qu'il a écrit les premiers bouquins d'après la guerre, L'homme foudroyé. Puis après, on a parlé de la banlieue tout de même. Hein. Alors il m'a dit, oh, il y a une banlieue que vous ne connaissez pas, celle que je parcourais avec Fernand Léger, cette espèce de zone impénétrable entre Gentilly et Villejuif. J'ai dit, mais si, j'ai des photos de ça, puisque mes copains d'école demeuraient là, je pouvais y entrer. Les gens qui entraient là-dedans, c'était alors risqué péril. Il y avait beaucoup de gitans, il y avait tout ce que la guerre avait ramené là. Oh, vous avez les photos? C'est pas possible si vous avez les photos. Bon, je l'ai envoyé quand je suis revenu à Paris avec ces portraits que j'avais faits dans Aix. Et par retour, une lettre que j'ai gardée, très courte, en disant « Si vous avez plus de 50 photos, on fait un livre. Oh, » J'étais fou de joie.
Ce que Robert Doisneau ne raconte pas dans les entretiens radiophoniques, ce sont les courriers de Sandrard qu'il reçoit régulièrement place Jules Ferry, notamment celui où il écrit
« Mon cher Doisneau, bien reçu vos quelques photos. Continuez à en faire selon votre désir et ne vous occupez pas de mon texte. Les photos priment et je m'en inspirerai pour écrire. Il faut que cet album soit votre livre, à vous. Vous avez du génie. Compris ?»
C'était mieux que n'importe quel diplôme. En revanche, la première partie de la phrase n'est pas forcément exacte. Blaise Sandrard, avec toujours une infinie politesse, pousse le jeune photographe à prendre quelques images de commande pour son texte, l'envoie photographier des banlieues qui ne sont pas les siennes. Mon grand-père s'exécute avec bonheur et part le matin très tôt photographier les images que Sandrard lui commande, ce qui donnera ce très beau livre, recherché aujourd'hui par tous les collectionneurs. Toujours à l'affût de rencontres inattendues, c'est dans un bistrot de la rue de Seine qu'il rencontre Robert Giraud. Cet homme a tout pour plaire à Doisneau, marginal, curieux et avide de littérature. Écrivain lui-même, Bob lui ouvre tout un monde, celui de la nuit, des halles, des égarés, des clochards de Maubert, des tatoués. Tous les marginaux passionnent l'écrivain en herbe, ancien assistant de Jean Dubuffet, qui malheureusement passe plus de temps au bistrot qu'à la table de son bureau. Le résultat est qu'il n'existe que peu de textes de cet écrivain que Robert Doisneau considère comme majeur.
Giraud, c'était mon copain de la nuit, qui n'a pas assez écrit dans sa vie, le vin des rues, c'était... Voilà. Giraud, à ce moment-là, travaillait dans une galerie de la rue de Seine. Alors, j'avais fait sa connaissance dans cette galerie, il m'avait invité à venir voir des personnages extraordinaires. Et c'était au moment où j'avais pris la résolution de faire que des gens dans le quotidien, tout à fait moyen, sans pittoresque. Et je tombe sur Giraud qui m'a emmené voir des gens tatoués des pieds jusqu'à la tête, un type qui élevait des fourmis dans une cave pour recueillir des œufs, pour nourrir des faisans, enfin des trucs invraisemblables. Et Giraud est resté mon ami, enfin... Un frère, absolument. Il a gâché tout ce qu'il avait glané dans la nuit, il l'a distribué jusqu'au jour où le patron du bistrot, où on allait rue de Seine, le père Fraisse, il lui a dit « Bob, je vais te parler ». Il l'a emmené dans l'arrière-boutique et là-dessus, Giraud est parti avec un séjour à Bréa offert par le patron. Il est revenu avec le vin des rues. Alors le vin des rues, il y avait le manuscrit que j'ai lu. J'ai été montré le manuscrit à Prévert qui me dit « On le fait éditer tout de suite ». Alors, on a téléphoné à Giraud au bistrot, bien entendu, qui est arrivé tout de suite. Enfin, on te paye la taxi, viens tout de suite. Bon, alors, Prévert a dit, je vais te présenter à mon ami Berthelet. Nous avons rendez-vous avec Berthelet, et tu élites chez Gallimard, ton bouquin. On a eu rendez-vous avec Berthelet à la Fontaine des Quatre Saisons, chez Tourette. Giraud est arrivé avec 3 quarts d'heure de retard, très saoul, très agressif. Et Berthelet avait préparé le contrat. Or, Giraud a fait le malin, puisqu'il avait fait des études de droit avant d'être arrêté pendant la guerre. Et là, il y avait un alinéa qui est celui de tous les contrats. Tous les droits d'adaptation cinématographique sont à partager avec l'éditeur. Alors là, Giraud s'est mis en colère, a brandi un guéridon, et ce Berthelet me disait « Mais votre ami est extrêmement violent !»
qui fait que le bouquin n'a pas été publié chez Gallimard. Irrécupérable.
Prévert, que t'es gentil comme tout, il dit, bon, Gallimard, c'est foutu, tu vas le publier chez De Noël. Et là, pas de guéridon.
Il était publié chez De Noël.
Mais tu vois, il y avait un bistrot qui s'appelait chez la mère Guignard. Hein. Et alors, chez la mère Guignard, on servait le vin dans des nids. C'est pas du très 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 bon vin, tu sais. Et alors, j'ai vu faire ce geste, ça, Giraud, tu pourrais te le dire, c'est que le gars qui ramassait avec l'éponge le vin qui traînait sur le comptoir, il pressait l'éponge dans l'entonnoir et ça remplissait une bouteille. La récupération, c'était le circuit court, tu vois.
Robert Doisneau et Bob se mettent à rêver d'un livre sur les tatoués. À cette époque, ce n'est pas dans les quartiers chics que l'on trouve les plus beaux tatouages, mais sur la peau des clochards parisiens. Robert se balade donc avec une bouteille de White Spirit, un jerrican d'eau et un chiffon à l'arrière de sa voiture pour nettoyer la peau des clochards et faire apparaître, derrière parfois l'épaisse couche de crasse, quelques traits dessinés. Trois fois par semaine, les deux copains font la tournée des bistrots du côté de Maubert, quartier des Clodos. Y a-t-il un tatoué qui veut gagner 200 balles ? Et un soir, ils tombent sur Richardo, l'homme le plus tatoué du monde, dont l'histoire à elle seule est un roman noir. Richardo a tué un homme, s'est retrouvé au bagne en Guyane, et décide là-bas de faire commerce de son corps en se tatouant entièrement. Il contracte une infection, et le corps gonflé par le pus, il survit par miracle, et de combinant petits boulots, atterrit chaque soir chez Bouchardo, un bistrot du quartier, repère de Giraud et de Doisneau. Richardo accepte bien volontiers de se laisser photographier, mais pour cela, il faut le déshabiller pour montrer toute l'œuvre d'art. Impossible de le faire dans le bistrot, alors Robert le fait grimper dans sa voiture et l'emmène chez lui pour la prise de vue. Richardo, poliment, entre dans l'appartement, scrute les deux petites filles du photographe, les salue.
Bonsoir, mademoiselle.
Ce qui a pour réaction immédiate l'envol précipité des deux petites filles terrorisées sous leur lit.
Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur d'un vrai.
Ensuite, Robert et Bob co-signent un livre en 1954 avec la plume de Michel Ragon, Les Parisiens tels qu'ils sont, l'un des premiers ouvrages du grand éditeur de photos Robert Dalpierre. Ce livre évoque la rue, le marché, les foires et les bistrots. C'est la première fois qu'un éditeur extérieur vient lui proposer un projet sans qu'il en soit le maître d'œuvre. Cela n'empêche pas le photographe de continuer ses maquettes de livres qu'il confectionne dans son atelier à l'insu de tous. Comme celui sur les enseignes de Paris qu'il a commencé à photographier dès qu'il a possédé un appareil photo. Mais rapidement, l'éditeur s'est désintéressé du livre. Ce recueil paraît finalement plus de 10 ans plus tard, en 1974, sous le titre « Le Paris de Robert Doisneau et Max-Paul Fouchet ». Grâce à son ami Bob Giraud, il découvre aussi le monde des Halles, où les hommes s'affairent comme des petites fourmis au moment où les autres dorment du sommeil du juste. Il se lève à 3 heures du matin, au moment où les fêtards laissent place aux travailleurs de l'aube, et part photographier ce qu'il sait être éphémère puisque la destruction des Halles vient d'être décidée par le gouvernement. De 1963 à 1971, dès qu'il le pourra, en général une fois par semaine, Robert part son sac en bandoulière photographier les bouchers, les fleuristes, les bistrotiers, avant que tout cela ne soit englouti par la grande pelleteuse.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
L'autre complice littéraire, c'est évidemment Jacques Prévert. Aujourd'hui, les noms de Doisneau et Prévert sont indissociables, mais ils n'ont pourtant jamais publié de livre ensemble. Jacques Prévert et Robert Doisneau, c'est une grande histoire d'amitié avec Paris en toile de fond. Non seulement l'écrivain est un modèle précieux pour le photographe, mais les deux amoureux de Paris aiment se surprendre l'un l'autre par la découverte de noms de rues et de quartiers parisiens. dès que son emploi du temps le permet, Robert part retrouver son copain Jacques de l'autre côté de Paris, à Pigalle, et les yeux de l'un photographient les mots de l'autre.
Parfois, nous avons vécu des situations qui avaient l'air d'être extraites d'un de ces scénarios. Une nuit, je l'emmène dans un petit bar du quartier des Halles. Il y avait là près du comptoir quelques filles en couleur et la même quantité d'hommes gris. Nous prenons place. Une des filles se dirige vers l'appareil à musique, met une pièce et la chanson de Prévert, Les feuilles mortes, emplit le bistrot. La fille, pleine de nostalgie, nous dit avec un gros soupir « Il devait avoir un sacré bourdon, le type qui a écrit ça. »
Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Les images que Robert fait de son ami Jacques Prévert n'ont alors aucune visée éditoriale. Elles ne sont réalisées que pour conserver la mémoire de ces moments uniques. Quel autre métier aurait pu lui permettre de rencontrer ces hommes et ces femmes qu'il admire tant ? Il a choisi ce métier aussi pour cela, rencontrer ces artistes qu'il n'aurait jamais pu approcher autrement. Dans cette ronde littéraire, il ne faut pas oublier le grand Antoine Blondin, dont les mots lui font venir les larmes aux yeux, René Fallet, Trublion facétieux, dont il exécute les photographies de mariage avec sa jeune et belle épouse Agathe. Tous ces écrivains ont vu dans les images de Doisneau le grand talent de l'artiste et ne gâchent pas leur plaisir à venir poser pour lui. Ce n'est pas toujours aussi simple. Certains écrivains ne le voient même pas, ou d'autres, comme Henri de Monterland, se permettent quelques remarques.
Vos photos pâtissent du fait que je vous ai reçu revenant de chez le coiffeur, coiffé exagérément court, et que vos prises de vue, souvent faites de bas en haut, accentuent la rareté des cheveux plaqués sur la tête et qui souvent n'apparaissent même pas dans la photo. J'indiquerai aux gens qui me demandent des photos vos numéros 44 725, 44 726, 44 727 et vous demande de choisir parmi elles celle que vous donnerez.
Cette lettre est conservée, classée par ordre alphabétique dans un grand classeur à l'atelier, comme toute sa correspondance. Quand on consulte ses agendas aujourd'hui, on s'aperçoit des semaines infernales où il court d'un reportage à l'autre. Une journée de prise de vue peut le faire traverser Paris dans tous les sens. Pendant les années 50, 60, 70, Robert perd sa vie à la gagner, cavalant de commandes publicitaires en reportages sur la médecine, les chemins de fer, le cirque, l'industrie, le théâtre, en Alsace, dans le Lot, en Ardèche. Il ne s'arrête jamais. Tout ce travail, il l'exécute avec la grâce d'un chat, sans sourciller, toujours de bonne humeur. Si Albert Plessis chez Point de Vue ou Michel de Brunhoff chez Vogue font appel à Doisneau pour les pages de leurs journaux, c'est pour ce fameux réalisme poétique, si cher à l'époque, et son talent qu'ils ont l'un et l'autre repéré et qu'ils font chacun à leur manière fructifier dans les pages de leur magazine. On retrouve donc un sujet sur les concierges, sur la banlieue, sur les statues de Paris, une série où les pigeons parisiens sont perchés sur les sexes des statues, mais aussi sur le Palais Royal, avec notamment une magnifique image de Colette dans le journal Point de Vue et Images du Monde. Edmonde Charleroux, devenue rédactrice en chef de Vogue, devient sa partenaire d'écriture. Ils arpentent ensemble les rues de Paris, mais aussi celles de province, et c'est lors d'un reportage près de Clermont-Ferrand qu'elle verra Robert en colère pour la seule et unique fois. Un patron d'usine tient absolument à se faire photographier devant les maisons de ses ouvriers qu'il a fait construire, ce qu'il nomme alors cette réalisation sociale magnifique. Impossible pour Doisneau. Il refuse net et avec autorité de pactiser avec ce qui symbolise pour lui la puissance des droits du maître sur les ouvriers. En 1944 déjà, Robert a refusé de photographier un réfugié comme lui demande la compagnie française de photographie en couleur pour laquelle il travaillait alors. Son œuvre est autant constituée des images qu'il choisit de prendre de celles qu'il bannit. Les femmes tondues à la libération, les clochards trop esquintés, tout ce qui rabaisse l'humanité lui est insupportable.
Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, la libération de Paris, les femmes tondues. Ça, il ne fallait pas montrer ça. Enfin, ça existe, oui, peut-être, ça existe historiquement. Mais c'était tellement laid, tellement lâche. Tous ces gens qui n'avaient rien foutu pendant l'occupation, qui se retrouvaient justiciers. Voilà, voilà encore le besoin d'être puissant, d'être justicier. Vous savez, le succès des films policiers au cinéma, c'est pour des gens qui n'ont aucune autorité. Et d'un seul coup, on leur montre Ouvrez, police, mettez les mains sur le capot. Ouf, quelle horreur, ça.
Pour le reste, il s'en accommode et de toute façon, il a une famille à nourrir. Alors pendant 2 ans, il va devenir photographe de bal mondain et de défilés de mode.
J'ai été pendant 2 ans photographe de mode, ce qui m'allait à peu près comme un soutien-gorge à une garde mobile. Enfin, oui, c'était une drôle de composition, mais j'ai rencontré des gens charmants. Hein. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne foutent rien. Et les gens qui font rien sont beaux. Les gens qui travaillent sont moches. Je sais, moi j'ai beaucoup travaillé, vous voyez, je suis fatigué, je suis maigrelet, enfin comme ça. Mais les gens qui font rien, qui prennent des bains, qui se poncent, qui s'astiquent, qui s'habillent bien, ils sont superbes. Donc j'ai eu des créatures superbes à photographier. Quoique pour moi, ce qui me gênait, c'est que leurs soucis, leurs conversations m'étaient parfaitement étrangères. C'est comme si j'avais une sorte de peuplade privilégiée qui parlait de sujets que j'ignorais complètement.
Il n'y comprend rien du tout et s'y ennuie beaucoup. Alors quand il doit se rendre au bal, Robert fait appel à son copain Maurice Baquet qui se transforme le temps d'une soirée en assistant photographe. Maurice le Trublion joue à l'assistant gauche et hésitant, ce qui fait éclater de rire les princesses qui regardent ce drôle de couple avec curiosité. Maurice descend le grand escalier en marbre en se laissant glisser sur la rampe, invite les belles à danser et certains de ses clichés se retrouvent imprimés dans le magazine car Maurice Baquet n'est pas un inconnu. Il aurait même pu être un jeune premier très célèbre, mais il déborde tant de vie que d'être enfermé dans un seul rôle lui est impossible. Ce qu'il veut, c'est être sur une scène de théâtre, sur des skis, jouer du violoncelle et tourner dans des films. Avec lui, Robert a trouvé son professeur de bonheur et comme à son habitude, il met en chantier un livre avec son camarade de jeu, « Ballade pour violoncelle et chambre noire », intitulé au départ « On dirait du veau ». Ce livre met 36 ans à trouver un éditeur et il est aujourd'hui vendu près de 800 €. Mais de toute façon, avec Robert, l'important n'est pas de publier à tout prix, l'important est de faire en s'amusant. Robert photographie Maurice Baquet dans des situations les plus invraisemblables les unes que les autres, à la campagne, à la montagne, dans le métro parisien, en studio. Maurice et son violoncelle sont des modèles merveilleux. Au-delà de la facétie et des rires qui se dégagent de ses photos, on y trouve aussi toute la magie du travail de l'artiste. Des montages, des trucages, des photomontages, collages, déformations et fractionnements. Le secret de Douaneau, c'est de faire semblant de se foutre totalement de la technique, alors qu'il n'y a qu'à regarder avec attention ces images pour deviner à quel point le photographe est un technicien hors pair. Il crée par exemple un appareil de photo à prise de vue périphérique qui lui permet de déformer la tour Eiffel ou les modèles qu'il photographie. Il ne va pas s'en priver. En 1972, pour la mairie de Pantin, il fabrique un photomontage à 3 dimensions de la passerelle des Arts. Une image multiple de ce pont où il passe plusieurs images faites à des dates diverses, depuis les années 40 jusqu'aux années 70. La modernité de cette œuvre fait résolument pencher l'univers du photographe plus du côté de l'art contemporain. L'année suivante, à l'occasion d'un travail sur les friches industrielles, il construit une image symbolique. Cette double image montre des mains mutilées sur l'arrière-plan d'une usine sidérurgique. C'est l'une de mes préférées. Enfin, en 1984, il participe à la mission photographique de la Datar. Il y poursuit sa recherche sur la banlieue parisienne en photographiant les villes nouvelles qu'il met en contraste avec des images réalisées 30 ans plus tôt. Ces photographies marquent une rupture dans la pratique du photographe. Non seulement elles sont en couleur, mais elles ne montrent que peu de présence humaine.
J'avais fait ça en couleur parce que c'était un apport nouveau. La banlieue que j'ai connue était grise et bistre, enfin comme ça, avec des voitures noires. Et maintenant, il y a des voitures qui sont colorées, comme un collier de perles en bas des grandes maisons. Et les maisons sont très colorées. Je pense que c'était une façon de faire la sauce qui fait passer le poisson. C'est tellement effrayant, c'est les dimensions de ces bâtiments, qu'on leur fout des couleurs suaves. C'est un maquillage, c'est pas une décoration de colorée. On les maquille pour les rendre aimables.
Sur le moment, ces images ne sont pas très bien comprises par ceux qui les découvrent et semblent être le premier travail en couleur qu'il réalise, ce qui n'est pas vrai du tout. Le Douaneau noir et blanc que l'on plaît à présenter n'est que le cache-pot, si l'on peut dire, d'un autre trésor qui commence à peine à être découvert, ses photographies couleur. Peu de ces images ont été présentées de son vivant, les journalistes et les conservateurs se plaisant à présenter un Douaneau nostalgique du temps passé qui forcément se présente en noir et blanc. Pourtant, beaucoup de ses reportages, notamment à l'étranger, seront en couleur, comme celui en Amérique. Robert a été envoyé à Palm Springs en 1960 pour le magazine Fortune, afin de photographier ses milliardaires sous le soleil. Après la publication aux États-Unis, le reportage est classé, archivé, terminé. En 2005, le rédacteur en chef du journal tombe sur un carton, l'ouvre, et découvre le reportage en entier, conservé à l'abri de tous. C'est une jubilation de découvrir ce travail qui prouve que Martin Parr n'a vraiment rien inventé. Sur ces images, il se moque gentiment de tout ce qu'il voit, avec tendresse, sans jamais de rire moqueur d'un regard supérieur sur ses semblables. Et grâce à ces cartes postales envoyées à Maurice Baquet, on partage l'atmosphère de ce moment.
Palm Springs Riviera Hotel. Mon cher Maurice, je commence à savoir ce que sont les couleurs suaves, et cependant, je croyais les connaître par la voiture de Ray Sugar ou les vitrines des coiffeurs de banlieue. Mais depuis mon arrivée à Palm Springs, c'est un enchantement, surtout le soir. Façade vert de gris, toit orangé et palmier couleur lilas. Il y a d'autres combinaisons, bien sûr, à l'infini, mais toutes ravissantes. D'ailleurs, tout le monde est bien content. Je me fais l'effet d'être d'un autre âge, comme un fauteuil Louis XV sur un aérodrome ou un violoncelle devant l'immeuble de Life. Voilà une image qu'il faudra faire. Et encore une façade le soir avec ta silhouette à travers une fenêtre et les autres silhouettes des gens qui téléphonent et s'agitent à toutes les autres baies éclairées. En fait, de téléphone, un bureau de businessman avec trois téléphones. La statue de la liberté, la rue des cinémas, une terrasse avec New York allumée. Pour l'heure, je commence à découvrir les millionnaires et il y en a beaucoup. J'ai une petite voiture électrique blanche pour me balader sur les greens et demain un hélicoptère pour avoir une idée générale. J'ai été présenté à des millionnaires golfeurs sous le nom de Robert de Paris. How are you? Qu'ils disaient tous avec l'air si content de me connaître que c'était flatteur pour le métier et pour mon rouge, saine. Et c'est seulement le commencement. Il y a ici 19 golfs. Je vais avoir des relations dans le pétrole, le cinéma et l'automobile. À bientôt, Maurice. Je tiens Charles au courant de mon emploi du temps et comme il pense, lui, que l'oisiveté est mère de tous les vices, il faut que je sois occupé. À toi de ton photographe, Robert. Mon cher Maurice, c'est ma dernière journée à Palm Springs. Demain, je pars pour Hollywood. Il ne faut pas le dire à Charles, mais je vais essayer de traiter le Jerry Lewis rapidement. J'ai un peu hâte de te revoir car je suis sonné, tu comprends? Ou plutôt, tu ne peux imaginer les maisons. Piscine dans le salon pour deux vieillards, jardin de plastique, faux utrio dans les cabinets, bouteilles sortant, giclant plus exactement sur le bar, et du violet, du vert, du mauve, je ne sais plus. Des tapis où je me tords les chevilles, assez de luxe pour le gars de Montrouge. C'est moi l'exotique, je m'en rends bien compte. 19 golfs. J'ai fait de l'hélicoptère à rendre la Maurice malade et des piscines et jamais personne dedans. Et des messieurs dames riches, on m'explique des chiffres où il y a énormément de zéros comme pour l'astronomie des années-lumière. Je n'ai pas de point de repère et il faut le dire que tout ce monde reçoit avec une simplicité, une gaieté que les soyeux de Lyon ignorent. Là-dessus, tout cela, une vache de ciel bleu infatigable. Et hier, j'étais chez les cow-boys. Il y avait des vrais, des faux. Les vrais ont chanté, c'était épatant. Un peu plus, j'y allais de la mienne. Je m'y suis ressaisi à temps. J'ai fait des tas d'images. Que vaudront-elles? Va le savoir. En fin de soirée, j'ai comme des troubles de la vue. Et ce matin, la langue blanche du vague à l'âme avec leur confiture qui frôle le steak, c'est déroutant pour l'organisme. Mon cher Maurice, vivement un coup de jet vers New York, ça me ferait bien plaisir. Ton photographe, Robert.
En 2011, ces images sont exposées pour la première fois à la galerie Claude Bernard à Paris et un livre est publié aux éditions Flammarion, avec un texte de l'écrivain Jean-Paul Dubois. Non seulement le public et les amateurs de photographie découvrent un autre Douaneau, mais ceux qui parfois regardaient ces images avec un regard quelque peu réducteur se mettent doucement à comprendre l'œuvre de cet artiste singulier.
Vos racines sont dans les pavés,
Ouais, puis je suis monolingue. Alors, comme il faut que je parle toujours avec les gens que j'ai photographiés. Après, je m'excuse, ou avant, je leur demande. Mais je ne peux pas être procédé avec des gestes. Enfin, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'irais faire à l'étranger? D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'étrangers que de Français, vous savez bien. Il paraît que je suis très bonne humeur là-bas, parce qu'on part toujours avec un copain journaliste qui, lui, va faire le texte. Et il paraît que je suis d'une humeur délicieuse. Mais le matin où je vais prendre un aéroplane et que je me rase, je me vois dans la glace, je dis, pauvre imbécile, qu'est-ce que tu vas faire sur cette lampe à souder à travers l'Atlantique? C'est vraiment pas indispensable.
À regarder ce reportage américain, on peut le contredire aisément, tout comme ces images de Maurice Baquet à New York. Singulière, aux lignes droites, à la composition parfaitement maîtrisée. Même s'il ne reconnaît pas les décors, le regard affûté du photographe fait mouche, comme en France. Il reste encore tant à découvrir de ses voyages. Celui en Russie, tout en couleurs, où il photographie les babouchkas et les usines, le regard embué de vodka. À Londres, où il s'amuse comme à Paris, à surprendre les passants, non pas avec le tableau d'une femme dénudée comme chez Romy, mais avec cette fois-ci des soutiens-gorge installés dans une vitrine. Malicieux, il se cache dans un coin et attend patiemment la réaction des passants. Tout en continuant son métier de forain, Robert Doisneau reçoit quelques lauriers, comme le plus prestigieux, le prix Niépce, en 1957. Il s'arrête un instant pour répondre aux questions des journalistes, puis repart aussitôt prendre des photos. Comment accumuler 450 000 négatifs sans travailler tout le temps?
Je refuse de montrer le côté noir de la vie. J'aime pas la laideur. Je sais dire que non, ça me fait physiquement mal. Je veux dire que quand on dit Euruguay, ça évoque un petit peu la grosse rigolade de fin de banquet. Ça, j'ai horreur de ça aussi. Mais la petite mélancolie, l'attendrissement, là, c'est peut-être des valeurs mineures, mais sont celles qui m'émeuvent le plus.
Cela ne se passe pas toujours comme il le souhaite, évidemment. Comme ce jour où il part, à l'aube, photographier des voitures pour une publicité en compagnie de 4 mannequins. Robert joue au chef de troupe, dispose son petit théâtre et fait presque preuve d'autorité face à ses modèles. Après la prise de vue, le directeur de publicité est tellement content de la séance et si impatient de voir le résultat qu'il accompagne Robert jusqu'au laboratoire. Il s'aperçoit alors qu'il a totalement oublié de charger son appareil vide de toute pellicule. Tout est alors à recommencer. La plus drôle, et à laquelle il consacre même une petite nouvelle, concerne l'atelier de Fernand Léger. Il s'y retrouve un jour pour y photographier les grandes toiles du peintre. Afin de bien attraper la lumière, il place son appareil sur un trépied au milieu du grand atelier de l'artiste, déplace légèrement une immense toile qui subitement perd l'équilibre et tombe à plat ventre, le trépied de l'appareil photo intact au milieu de la toile déchirée. Heureusement, la bonhomie du peintre rend la honte du photographe toute relative et le marouflage n'y laisse que peu de traces.
Quand je vais chez quelqu'un, il est sûr que 5 minutes après, on se retrouve dans, si c'est un peintre, dans l'atelier, si c'est un écrivain autour de sa table. Je suis toujours près des outils. Ça me plaît. Vraiment, non, pur. C'est là qu'il y a vraiment le mérite, la vie. Le salon bourgeois, il m'ennuie à crever parce qu'il ne se passe rien, là. Hein, il y a des tas de choses inutiles. Et les choses, écoutez, c'est même rigolo parce qu'en architecture, en décoration, dans le style dit bourgeois avant, enfin, ou la grosse bourgeoisie de la fin du siècle dernier ou du commencement de celui-là, et tout ce qui était utile à la maison était caché sous du stuc. Hein, les tuyaux, les câbles, les fils, tout ça, c'est caché. Alors qu'en réalité, c'est ça qui fait marcher. Alors, dans une ville, on cachait aussi l'ouvrier.
Son seul regret est de ne pas avoir passé assez de temps auprès des ouvriers, dans les usines, où l'homme travaille, peine, afin de montrer la noblesse de ces métiers dédaignés, de ces hommes qui donnent leur vie à leur labeur. Il fera des images régulièrement pour La Vie ouvrière, le journal de la CGT, qu'il envoie en URSS, mais aussi en Lorraine, photographier les mineurs et les sidérurgistes. C'est le début des années 80 et mon grand-père devient célèbre sans s'en apercevoir. Cette reconnaissance et cette petite célébrité lui donnent accès un peu plus souvent aux plateaux de télévision et à ceux de la radio, mais surtout, elle apporte plus de commandes, donc plus d'argent nécessaire au bon fonctionnement de l'atelier. Ma grand-mère est tombée malade et doit quitter leur appartement pour loger dans une maison médicalisée à 2 pas de chez eux. Robert n'accepte, à partir de ce jour, que des commandes qui ne lui feront pas franchir les portes du périphérique, afin de pouvoir être présent à leur reposeraie, tel est le nom de cette maison, pour le déjeuner et le dîner de Pierrette. La seule personne qui va réussir à le convaincre d'aller un peu plus loin que Pantin est Bertrand Tavernier, l'invitant sur le plateau de son film « Un dimanche à la campagne ». Il commence par refuser, les horaires de tournage n'étant que peu compatibles avec ceux de la maison de repos. Il finit par se laisser convaincre et ce tournage lui permet de faire la connaissance de sa jeune actrice principale, Sabine Azéma. Sabine, c'est le soleil qui embellit sa vie. Leur amitié, un cadeau inestimable qu'ils goûtent à loisir chaque jour, puisque rapidement ces deux-là deviennent inséparables. Il l'emmène partout tester ses décors, la suit sur ses tournages, avec Tavernier une nouvelle fois, puis souvent avec Alain Resnais, qui entre-temps est devenu son mari. Le cinéma, il aurait aimé en faire, mais voilà, il lui manque la qualité première, l'autorité. Impossible pour lui de diriger une équipe, il a appris à être solitaire et s'en accommode fort bien, puisqu'elle est pour lui gage de liberté. Dès qu'il le pourra, il ira photographier des plateaux de cinéma. Le premier film sur lequel il travaille est « Le silence est d'or » de René Clair en 1945. Puis il fait de véritables reportages du tournage de « Tirer sur le pianiste » de François Truffaut et celui de Claude Chabrol, « Les bonnes femmes ». Le cinéma, c'est son rêve secret. Jusqu'à ce qu'un producteur lui propose de passer derrière la caméra et il réalise son seul et unique court-métrage « Les visiteurs du square » en 1992 à 80 ans. Sans dialogue, mais avec juste des effets sonores et musicaux, le film est l'histoire d'un petit garçon entrant dans un square avec une voiture télécommandée. Je vous laisse deviner la suite. Ce square du Vert-Galant, lieu du tournage, fait partie des paysages parisiens qu'il affectionne et qu'il a recensés dans son petit carnet de décors où il colle des images de lieux possibles pour y recevoir un modèle. Quand on feuillette ces carnets aujourd'hui, on s'aperçoit que tout est encore là. Le square du Vert-Galant, le pont Alexandre III, le toboggan de la porte de la Villette, devant laquelle il fait poser Jacques Higelin, l'échangeur de maison Alfort, où il emmène Sandrine Bonner et Sabine Azéma, les escaliers de la rue René Coty, qui profitent de la belle silhouette du chanteur Renaud, les négociants, ce bistrot tenu par un copain de Bob Giraud. Où sont ceux qui se désespèrent en se lamentant que mon grand-père...
C'est bien simple, à Paris, il n'y reconnaîtrait rien.
Seule la rue Watt a été détruite. Cette rue Watt, sombre et quelque peu lugubre, qui a servi de décor pour Sabine une nouvelle fois, Brassens, Léo Mallet et les autres. Mon grand-père avait donc raison. Il faut savoir regarder, regarder, regarder.
Regarder, regarder, ouais. Regarder. L'ivresse, hein, jusqu'à en être complètement sous de regarder.
Robert, de toute façon, est pour le mouvement, pour ne pas figer les choses. Ce qui est moche, il voulait le voir disparaître.
Que le groin des bulldozers s'acharne à éventrer Paris... C'est dans l'ordre des choses, il vient faire la place à des maisons toutes badigeonnées de couleur beige. La beauté doit être éphémère. Les villes musées comme les vieilles coquettes ne sont fréquentables qu'en lumière atténuée. Maintenant, il est suffisamment tard, il y a prescription. Je peux bien avouer que les démolisseurs sont mes complices. Ces escamoteurs de décors ont droit à ma gratitude. Leur vaillance donne de la plus-value à mes vieilles photographies. La voilà la différence entre la rue d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est la disparition des odeurs. Vous allez dire la belle affaire pour un glaneur d'images. Erreur. Je vous ferai remarquer que le nez est proche de l'œil. Mouche-toi, disait ma grand-mère Duval, tu y verras plus clair. Quand aujourd'hui je vois les conservateurs et les bibliothécaires faire grand cas de ces documents glanés dans des situations répréhensibles devant les gestes bénisseurs de ces gens qui représentent l'ordre, je sens monter une délicieuse jubilation. Tout ceci est bien gentil, mais il y a toujours lancinante la même question qui vient me gâter le plaisir. Combien de fois encore verrai-je refleurir mes merveilleux marronniers du boulevard Arago ?
Plus il vieillit et plus il néglige de mettre le nez dans ses archives, trop parfumées à la naphtaline, devenues des cercueils, puisque la plupart des gens imprimés en noir et blanc ou en couleur ont disparu. Il fuit aussi les gens de son âge, ceux qui se rappellent le bon vieux temps, pour aller retrouver les jeunes gens, le présent, toujours et absolument. Alors, quand Claudine Maugendre, la directrice photo du magazine Actuel, lui propose d'aller photographier la jeune génération de chanteurs, il est heureux. Dans le lot, il y a les Négresses Vertes et les Nonnes Tropos. Issus de la scène alternative rock plutôt énervée, leur public se situant plus entre 15 et 25 ans que 75, l'âge de mon grand-père à ce moment-là, les Nonnes Tropos, trois gars qui se déguisent en bonnes sœurs, jouant sur des bassines en plastique, vont être immédiatement adoptés par le photographe. Ils n'aiment que cela, l'inattendu, la surprise, le jeu, la fantaisie, le goût de ne pas se prendre au sérieux. La chanson, même s'il affirme avoir l'oreille en friche, il a toujours aimé cela. Populaire comme la photographie qu'il pratique, les deux sont des mixeurs de classes sociales qui touchent aussi bien les classes privilégiées que les ouvriers. De toute façon, tout ce qui a trait au spectacle le ravit. Et ce n'est pas étonnant alors de trouver des images de Patachou, Yves Montand, Charles Aznavour, Philippe Clay, Claude François, mais aussi Georges Brassens, le seul chanteur qu'il photographie tout au long de sa carrière. Si la photo est bonne, Barbara, elle, n'a été qu'un simple modèle pour le photographe. En 1957, Robert fabrique des couvertures de romans noirs pour la collection L'Aventure criminelle chez Fayard, et Barbara est venue poser pour lui. À cette époque, elle fait la plonge à la Fontaine des Quatre Saisons, le cabaret de Pierrot Prévert, frère de Jacques, où se rend souvent Robert. Mais celui avec qui il noue une véritable histoire d'amitié, c'est David McNeil.
Je vais demander à Robert de faire s'il avait envie, si ça l'amusait de faire une pochette, une photo pour une pochette de disque. Et j'étais un peu terrorisé parce que Dono, pour moi, il faut dire que je suis né dans un milieu de photographe. Ma mère est photographe, mon beau-père aussi. Et puis rencontrer Robert Bonneau, pour moi, c'était vraiment quelque chose de... Je veux dire, c'est comme un musicien pour rencontrer Mozart. Et puis j'ai rencontré un homme tellement adorable. Et on se retrouve avec Robert. Il avait une idée de prendre toute l'enfilade, la perspective de la rue de l'Odéon. Et on est arrivé, il a commencé à neiger. Et j'avais l'air d'un caniche mouillé au bout de 4 secondes. Et Robert a dit, bon, on va aller au premier étage de la tour Montparnasse. Parce que là, c'est sec. Et on est parti dans sa vieille Toyota hésitante. C'est une voiture hésitante. Tant bien que mal, on est arrivé. Et on s'est retrouvé au premier étage. Et puis, on a commencé de nouveau. Parce que Robert change toujours quand il arrive dans une galerie marchande, par exemple, il change les spots et tout. Alors, il profitait du fait que j'étais grand pour changer tout l'éclairage. Et on a commencé. Et Robert était à plat ventre. Dans l'esplanade du premier étage de Montparnasse, et il me dit, vous vous mettez là. Et on a fini dans son appartement, avec Patrick Couratin, qui tenait une veste noire en guise de fond. Moi, j'étais trop grand, parce que Robert est plus petit que moi, donc j'avais les jambes pliées en deux. J'avais le buste tourné vers la droite, le visage tourné vers la gauche, avec vraiment pratiquement à quatre pattes, avec un copain qui tenait cette veste. Et Robert disait, soyez naturel. Et c'est une belle photo. Robert fait des photos sur lesquelles, si ces photos étaient des musiques, on pourrait danser.
Balançant dans la rue des bouts de pain aux moineaux, un passant s'est évadé des photos de douaneaux, pullo vert à l'envers, tirant sur son mégot, c'est Prévert, Dagobert, aux deux magots. Les enfants de Fitzgerald défilent déguisés, Cyberbank, New York Herald, sur les Champs-Élysées.
Il aime aussi la timidité et la fragilité du chanteur Renaud, qui n'en revient pas de le rencontrer. Toutes ses personnalités aiment le naturel de cet homme, sa bonhomie, sa manière de ne pas se prendre au sérieux.
Rollo ordinaire, peuple de Paris, rouge-gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistrots et bougnats, et marché couvert, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard, autour de son cou, rouge sa mémoire, à jamais debout.
Quand il est devenu ce personnage si célèbre à la fin de sa vie, c'était étonnant de l'entendre parler à la radio, passer à la télévision, donner son avis, raconter des anecdotes. Les journalistes étaient gourmands de ses propos, lui qui a eu tant de mal à prendre la parole. C'était ce qu'on appelle dans le jargon du métier un bon client. Poli, à l'heure, parlant avec clarté et une pointe d'humour sur de multiples sujets, il savait charmer tout en captivant son auditoire. Mais ne l'imaginez surtout pas comme un bon vieux monsieur qui racontait ses faits de guerre. Non, il s'émerveillait en parlant des autres. Mais il n'aimait pas trop se livrer. Ce n'était pas son truc. Ce n'était pas le truc de l'époque, de toute façon, de se livrer. On faisait, c'était mieux. Alors, jusqu'à la fin de sa vie, Robert a travaillé. Pour des commandes de journaux, comme actuel, mais aussi pour des livres. À la fin des années 80, il va publier deux livres avec deux nouveaux camarades d'école, François Cavana et Daniel Pénac, deux rencontres miraculeuses pour le photographe.
Quand j'achète un bouquin d'intermédiaire, ça m'est arrivé deux fois. Je trouve qu'on m'a fait payer un bouquin pas assez cher, parce que je pompe là-dedans beaucoup plus que la moyenne des gens. C'est vrai. Il parle par exemple de ce qu'on achetait à la sortie de l'école. Tu parles du ruban de réglisse. Tu parles de l'aspire-frais. Qui connaît l'aspire-frais, à part moi, à cette table ? L'aspire-frais, c'était un espèce de petit sac avec un tuyau en réglisse et l'intérieur, il y avait du bicarbonate avec une poudre qui devait être du
sucre,
d'acide citrique. Hein ?
Pense.
Alors, on pompait ça. Ça devait être épouvantable pour l'estomac. Après, on s'étonnait que les mômes avaient tous des boutons, mais enfin bon, on pompait ça. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les trucs qu'on se mettait sur la langue et qui faisaient oui, 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 comme ça,
ah,
en classe. Les rossignols. Il me décrit tout ça. Et moi, j'ai oublié complètement ces accessoires. Quand j'ai le bouquin de Cavana, je retrouve tout ça merveilleusement décrit.
Les doigts pleins d'encre avec Cavana et les grandes vacances avec Pénac vont être des best-sellers en librairie. Plus de 250 000 exemplaires de chacun de ses livres d'images, du jamais vu pour un livre photo. À cette époque, mon grand-père vient dîner chaque soir à la maison et les dîners sont l'occasion de l'écouter raconter ses journées qui sont de plus en plus fournies de demandes diverses qui n'ont rien à voir avec son métier. Parfois, cela le met un peu en colère de voir son emploi du temps ratiboisé par des demandes d'interviews sur n'importe quel sujet. Il s'enfuit même d'un plateau de télévision tant l'attente lui est insupportable avant son passage devant la caméra. Il a un peu honte de son comportement. Il n'a pas recherché ce grand succès, mais cela lui aurait semblé très mal élevé et hautain que de donner l'illusion qu'il dédaignait son monde. Il tente alors de faire entrer le plus de choses possible dans un minimum de temps. Chaque dimanche matin, par exemple, est consacré à la correspondance. Il s'est fait une règle de répondre à tout le courrier qu'il reçoit. Cela lui prend de plus en plus de temps, et entre des souvenirs, des anecdotes, arrive au bureau la sempiternelle question.
Monsieur Doineau, que dois-je faire pour devenir photographe ?
À laquelle il répond.
Premièrement, l'œnologie. Parce que sans œnologie, on ne peut pas être photographe. Il est évident, par exemple, qu'un petit verre de vin pris avant 10 heures permet de clarifier toutes les situations photographiques. Deuxièmement, l'ordonnancement des fleurs. L'art floral, qui consiste à mettre dans un vase quelques fleurs coupées ou éventuellement à les repérer dans un champ pour en faire un tableau. Apprendre à voir, je crois que cela aussi fait partie de la photographie. Troisièmement, la pêche à la ligne, parce que ça apprend la patience.
Ses réponses comme des pieds de nez sont en réalité très sincères, mais il ne veut jamais donner de leçons, participer à des jurys, noter, affirmer. Non pas qu'il ne soit que gentil, il pouvait avoir la dent féroce quand il n'aimait pas, mais il avait choisi ses cours de récréation et ses camarades d'école pour ne pas s'époumoner à dire du mal. Pour le reste, il s'en accommodait, feignait de ne pas voir ce qui l'encombrait, fuyait la prétention et la pédanterie. Il s'amusait beaucoup de voir son statut de petit artisan se transformer en maître de la photographie pour non seulement la nouvelle génération d'artistes, mais aussi pour le grand public. De populaire à populiste, il n'y a qu'un pas que certains ont franchi allègrement pour parler de ses images. Il faut dire qu'il est le premier photographe réussissant l'exploit d'être adoubé par ses pairs, reconnu comme l'un des plus grands, mais aussi aimé par le grand public. Non seulement il n'a jamais perdu de vue son travail photographique, disons artistique, sans jamais dédaigner le poids des archives, ce qui permet aujourd'hui d'aller puiser dans son œuvre n'importe quel sujet. Surtout, force est de constater qu'il a pratiquement tout photographié de son époque. Vous voulez une image de bistrot ? La voici. Une image de serrurier, la voilà. Une image d'usine dans le Nord, encore une. De l'Ardèche, du Poitou, de Bretagne, encore d'autres. Des critiques, il s'en fichait pas mal, puisque sa notoriété ne devait en rien au désir de flatter le plus grand nombre, ni de plaire aux intellectuels. Comme l'écrit si justement son ami Daniel Pénac,
« Si ces photos parlaient à tous, c'est que leur humour s'adressait à la perplexité de chacun. ce sentiment que la cocasserie oppose la vérité des choses à nos certitudes les mieux ancrées.
Un historien anglais de la photographie, Peter Hamilton, lui consacre une véritable biographie. Et pendant 2 ans, il fouille dans ses archives, l'interroge et plonge dans son œuvre pour en ressortir un gros livre complet et érudit, ainsi qu'une exposition monographique. Elle est montée à Oxford en 1993 et mon grand-père s'y rend, très ému, percevant que cette exposition et tout ce travail magnifique étaient des pas supplémentaires sur le chemin du cimetière.
Quand j'étais plus jeune, je voyais une façon plus aiguë, peut-être que j'étais plus méchant. Maintenant, je deviens moins méchant, moins moqueur. Parce que je me vois dans les glaces en fin de journée, comme ça. Et je dis, merde, qu'est-ce que c'est que ce type ? C'est moi. Il gère fou, parce que je rêve. Ah non, il faut aller. Il faut suggérer les choses, il ne faut pas décrire trop précisément le bonhomme. On peut se moquer, parce que je me moque bien de moi. Enfin, je suis un petit bonhomme ridicule. J'enfonce ma casquette quand il fait froid, quoi. C'est très anonyme, hein, mon passage. Hein. Plus je suis fondu, plus je suis content. En plus, c'est même une attitude philosophique. Je ne veux pas être un observateur froid, scientifique. Je veux être fondu. La foule, ça me fait peur. Mais les individus semblables, c'est cela que je... Dans le fond, j'essaie peut-être de faire ma photo pour ne pas mourir.
Il disait souvent qu'il était arrivé dans le troisième âge par inadvertance. Et au début des années 90, la vieillesse commence à faire quelques dommages sur son corps. Une enfance asthmatique, allergique à l'eau à l'âge adulte, cette fois-ci ce sont les bronches et les poumons, puis le cœur, et ce fameux triple pontage dont il ne se réveillera pas. Il est mort le 1er avril 1994. Le lendemain, tous les journaux ont consacré leur une à sa disparition. Partager sa peine avec les autres, voir à quel point il était aimé, voire même adoré, aide à la supporter. Non pas qu'en la partageant ainsi, on puisse la réduire, mais on l'allège. On se sent un peu porté par les autres. Et depuis 20 ans, cela n'a pas cessé. Mon grand-père est entré dans les dictionnaires, les livres d'histoire de l'art. Il est même devenu un adjectif quand on veut parler d'une image où s'embrassent deux amoureux ou des écoliers en noir et blanc. Au Chili, en 1998, son exposition au Musée national a battu des records d'affluence. À New York, le MoMA l'a exposé. Au Japon, ces images sont très largement diffusées et des expositions sont régulièrement montées. En Corée, un documentaire lui a été consacré. Son carnet de bal aujourd'hui est bien fourni. Entre 2013 et 2014, les images de Robert Doisneau ont été exposées en Italie, en Chine, au Japon, au Danemark, en Corée, en Espagne, au Mexique. Cette notoriété ne fait que s'accroître et le travail redoublé à l'atelier. Après avoir vendu les meubles, partagé les livres et les souvenirs, l'appartement de mon grand-père s'est transformé tout entier en espace de travail. Le salon et la cuisine sont devenus des lieux de stockage de certaines expositions, leur chambre, le bureau de ma tante. Seul l'atelier où ma mère travaille chaque jour ne s'est que peu transformé. Le laboratoire a été détruit pour laisser la place à une chambre froide qui conserve les négatifs. Un ordinateur trône dorénavant sur son bureau, à côté d'un scan venu remplacer l'agrandisseur. La photographie avec Doisneau s'est arrêtée au 24-36. Il n'a pas connu le numérique, l'ère de l'informatique. Il aurait été très friand de toutes ces nouvelles manières de prendre des images. Bidouiller, inventer, jouer avec l'image afin de la rendre la plus vivante possible, c'est comme cela aussi qu'il envisageait son métier. Mais il lui aurait fallu apprendre à stocker, imprimer, éditer, publier et réfléchir autrement. Toutes ces inventions demandent une nouvelle énergie, une capacité d'adaptation et du temps supplémentaire qui n'aurait pas été, je pense, du coup de mon grand-père, lui qui courait toujours après le temps. En 20 ans, le monde de la photo s'est transformé. Aujourd'hui, on voit quelques jeunes gens continuer à photographier avec des pellicules. Les applications des smartphones permettent de recréer des images à l'ancienne. Certaines coques de protection prennent l'allure de relais flex. La modernité permet de faire revivre l'ancien. Drôle de paradoxe. Les agences ont pratiquement toutes disparu. Le numérique a remplacé l'argentique et les photographies ont fait leur entrée dans le marché de l'art, dans les musées, les galeries. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, le regard. Et la façon si particulière et personnelle de regarder le monde chez Robert Doisneau, je la retrouve aujourd'hui chez d'autres, qui sont, peut-être sans le savoir, des héritiers et sont devenus des membres de ma famille, bien après la mort de mon grand-père. Comme François Morel, dont les mots sont pour moi comme des images de Robert Doisneau.
Faux monnayeur et faux témoin, Robert Doisneau, toute sa vie, a exercé son art forain. Sa pauvre tante avait honte. « Mon neveu fait de la gravure, disait-elle, la bouche en cœur tremblotante de pieux mensonges. Au moins, ça faisait taire les voisines qui s'inquiétaient pour l'avenir de ce pauvre garçon bâti comme un jockey sans cheval et sans champ de course. Photographe. Pourquoi pas cracheur de feu ou montreur d'ours. L'avantage avec un appareil photographique, c'est que ça donne une contenance, ça occupe les mains, ça permet de se cacher derrière. Alors au début, Robert le timide photographie un tas de pavés. Un tas de pavés, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus photogénique, mais au moins, c'est tranquille, ça ne pose pas de questions, ça ne se demande pas si c'est mieux de ce profil ou de celui-là, ça ne fait pas son malin, ça ne cherche pas à être à son avantage, et puis ça ne risque pas de vous dire un matin de lassitude, « Robert, pose un peu ton appareil, tu nous emmerdes. » Parce que toute sa vie, Robert aura suivi la même ligne de conduite qui consiste à n'emmerder personne. En ce temps-là, il osera juste devenir un paparazzi de bec de gaz et de peinture qui dégouline et qui s'écaille. Déjà, la patine, le temps qui passe. Mais arrêtons deux minutes avec la légende de Robert le gentil nostalgique du joli temps passé avec ses petites putes, ses petits grooms, ses petits métiers, ses petits formats, ses petits blancs sur le zinc, une époque qui précédait celle des grands ensembles, des grandes tours, des grandes misères. Doisneau regardait son époque. Il se trouve qu'elle présentait encore en plein Paris ses quartiers de viande sur les épaules des bouchers, ses cornettes, ses soutanes, son picon, ses triporteurs. Libre à nous de regretter ou pas les hirondelles et les blanchisseuses, les archiducs et les professeurs de corps, les boules de neige et les chiffonniers. Tiens, c'est ce qu'on appelle un inventaire à la commande déjà. Robert Doisneau était un poète, un romancier qui écrivait avec son Laïka des histoires de solitude, d'amourette et de rêves d'enfant. Homme d'amitié, ses photos sont d'abord des planches de contacts humains. Quand il s'est décidé à abandonner les tas de pavés pour saisir des visages, il a commencé par ses proches, ses copains, ses voisins, ceux auprès de qui il passe du temps. L'humanité que l'on voit dans ces images n'est pas spectaculaire, elle est regardée à distance respectueuse, sans recherche du pittoresque, parce que Doisneau n'est pas un touriste mais un promeneur, un gars qui se balade et qui pour ses semblables garde une tendre compassion. Même s'il n'était pas du genre à faire le pied de grue devant la grotte de Soubirous, Robert Doisneau était d'abord un guetteur de miracles qui ne se reconnaissait que peu d'ennemis. Ah si, le fer à cyanure de potassium, le képi et, naturellement, la connerie.
Les accords, l'accordéon désaccordé du boléon, s'accorde au diapason, du tourbillon des corps et des cœurs amoureux, et le cordon, langoureux de leur nostalgie. Relis mon vague à là, mon charme disparu, les rues du vieux Paris.
C'était Libre Cours, Robert Doisneau, le réfractaire du temps qui passe, seconde émission, par Clémentine de Roudil.
Les grands bonimenteurs,
lecture, François Morel et Guillaume Poix. Les archives sonores sont issues du disque Les Grandes Heures, Robert Doisneau, le braconnier de l'éphémère, aux éditions INA Radio France. Cette émission a été réalisée par Midia Portis-Guérin et avec à la technique Jason Taous.
Elle est la Damia, charmeuse de cobra, qui vous saignait le cœur avec les trémolos du malheur dans la voix. Des accords, l'accordéon désaccordé du boléon, me colle à fleur de peau, les nappes de frissons des vagues de langueur.
Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page Libre Cours. Vous y trouverez les références bibliographiques et musicales. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne, la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.